Et par actualité.
Les par actualité ce jeudi 3 novembre, comme vous pouvez voir, ce n'est pas Clotilde Say qui est en onde avec vous, c'est Daniel Rioux. Et je commence tout de suite avec En manchette aujourd'hui, on a pas mal de sujets à couvrir. Il y a tout d'abord la Semaine nationale, des milliers de Québécois sont des proches aidants. Toujours en manchette, un avenir pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. Je parlerai aussi de les personnes à mobilité réduite, une clientèle qui est appelée à croître. De plus, il y aura un regroupement de plusieurs services pour les enfants de 0 à 5 ans en Abitibi, une nouvelle ressource en autisme aux îles de la Madeleine et il y aura aussi, j'y traiterai du sujet, le cannabis est-il traité comme un autre médicament dans les foyers de soins. Et j'aurai aussi, au niveau international, le Canada responsable de ses résultats décevants en matière de droits des femmes. Et j'aurai aussi des nouvelles en rafale pour vous. Et je vous parlais qu'en manchette, j'aurais plein de sujets à vous communiquer, mais j'aurai aussi en entrevue Mme Lucie Tremblay, présidente de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec, dans une première portion de l'émission. Et en deuxième portion de l'émission, il y aura Martin Morin, qui est agent d'information et de promotion du regroupement des aveugles et amblyopes du Québec et coordonnateur du projet Déficience visuelle et résilience. Mais avant, je commence avec des communiqués avec le premier. Donc, c'est la Semaine nationale, c'est qu'il y a des milliers de Québécois qui sont des proches aidants. Avec le vieillissement de la population, de plus en plus de gens se retrouvent proches aidants. Dans la région de la Mauricie, on en comptait près de 47 000. Le conjoint de Monique Pilon a reçu un diagnostic de Parkinson il y a 3 ans et du jour au lendemain, elle est devenue proche aidante. Je l'aide à attacher ses boutons, parfois à mettre ses bas, à se lever du lit aussi, explique Mme Pilon. Ce n'est pas toujours facile d'être proche aidant. Les statistiques démontrent que venir en aide un conjoint atteint de troubles cognitifs peut augmenter de 60 % les risques de décès chez l'épouse. Je ne voudrais pas que ça arrive, mais je sais que ça peut arriver, dit-elle. Son conjoint, Roger Delisle, en est bien conscient. Le départ de la maison, quand ça deviendra trop difficile pour elle, est bien discuté. On en a parlé avec mes enfants aussi. Il ne faut pas qu'elles se détruisent. On est ensemble, et ce n'est pas pour se détruire. En Mauricie, 20 % des personnes de plus de 15 ans sont des proches aidants. La personne aidée, dans 90 % des cas, fait partie de la famille. La Semaine nationale des proches aidants se déroulera donc du 6 au 12 novembre et là pour but de faire connaître les services qui leur sont offerts. Trop souvent, par contre, ceux-ci ont de la difficulté à se reconnaître comme des proches aidants. D'un autre sujet, un avenir pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. Bâtir des résidences supervisées pour permettre aux gens à faible revenu aux prises avec une déficience intellectuelle de légère à moyenne ou avec un trouble envahissant du développement de vivre dans un milieu sécuritaire et avec une certaine autonomie, ben voilà le projet d'Isabelle Marsan et de toute l'équipe de l'organisme Le Pas de Deux. Elle-même mère d'une fille de 24 ans atteinte d'une déficience intellectuelle, Mme Marsan s'est mise à discuter avec des parents vivant la même réalité ainsi qu'avec des intervenants de différentes organisations comme le Centre de réadaptation La Myriade et le Centre de santé et de services sociaux du sud de Lanaudière. Nous nous demandions, si je pars demain, qu'arrivera-t-il à mon enfant? C'est à la suite de ces questionnements qu'a germé l'idée de construire des logements conçus pour ces personnes. Ces adultes fonctionnels peuvent, par exemple, s'habiller et manger seuls, mais ils ont besoin d'encadrement et de soutien au quotidien. C'est pourquoi les logements seraient supervisés 24 heures sur 24. Le groupe veut aussi éviter que ceux-ci vivent en marge de la société en raison de leur incapacité intellectuelle. Le projet avance à grands pas à Terrebonne, un terrain sur lequel les 9 premiers logements pourront être construit a été trouvé. On espère une pelletée de terre officielle d'ici Noël. En attendant que la construction débute, de nombreuses activités de financement seront à nouveau organisées. Actuellement en construction, il y a un site Internet plus convivial qui permettra à ceux qui veulent participer aux différentes activités de financement de s'inscrire. Donc, retenez le pas de deux et faites des recherches sur Facebook. Aujourd'hui, au Par Actualité du jeudi 3 novembre, je reçois et j'ai en ligne Mme Lucie Tremblay, qui est présidente de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Bonjour, Mme Tremblay.
Bonjour, vous allez bien?
Oui, bien, je chausse les chaussures de Clotilde, mais quand même, ça va bien. Et puis, j'aimerais en entendre beaucoup plus parler de votre campagne nationale pour une plus grande autonomie infirmière dans les médias du 17 au octobre, et, qui a commencé le 17 octobre, et ça va continuer jusqu'au 13 novembre. J'ai vu à la télévision, puis j'aimerais vous en entendre parler de cette campagne nationale.
À peu près à la même date l'an passé, les infirmières étaient rassemblées en Assemblée générale annuelle et ont affirmé haut et fort qu'elles veulent que notre système de santé redevienne le meilleur système de santé au monde. Et pour ça, il faut vraiment régler les problèmes d'accessibilité aux soins. Ça fait des années qu'on est en queue de peloton quand on parle d'accès. D'autres provinces, d'autres pays ont pris le virage d'utiliser davantage les compétences des infirmières et c'est ce qu'on veut démontrer dans cette publicité-là, que l'accès passe aussi par d'autres professionnels, notamment les infirmières, qui peuvent faire des évaluations, qui peuvent s'occuper de problèmes mineurs, qui peuvent aussi assurer la continuité des soins, puisque 50 % de la population du Québec souffre de problèmes de maladies chroniques. Et ça, c'est vraiment un suivi là, de soins infirmiers qui est nécessaire dans une circonstance comme celle-là. Alors, on veut sensibiliser la population au fait que l'accessibilité aux soins, c'est un droit et les infirmières peuvent améliorer cet accès aux soins-là. Et on a interpellé le gouvernement pour qu'il y ait des changements qui soient faits pour que ce soit beaucoup plus facile d'avoir accès aux soins, que l'organisation des services fasse en sorte qu'on puisse avoir directement accès à une infirmière.
Mais quand j'ai vu à la télévision le message, comme tout le monde, c'est quoi le message essentiel que vous allez transmettre là, à travers l'image avec le petit garçon là? Est-ce qu'il y a d'autres messages qui vont avoir autant d'impact?
Mais écoutez, dans notre campagne de publicité, on a aussi un site web où est-ce qu'on parle d'innovations qui ont eu lieu un peu partout à travers le Québec et qui sont à capter et à diffuser largement. Mm-hmm. Parce que quand on voit ce petit garçon-là qui attend indûment des soins, c'est inacceptable. Oui. Mais si on se tourne vers Verdun, par exemple, qui a un programme extraordinaire où est-ce que les infirmières prennent en charge des clientèles qui sont en attente, là, celles qu'on appelle des clientèles orphelines. Oui. Elles vont voir ces gens-là, font des activités auprès d'eux là, de dépistage, de suivi, d'enseignement. Et la grande, grande majorité de ces gens-là n'ont même pas besoin de voir le médecin. Alors, on a là une solution extraordinaire pour empêcher que les gens attendent de façon inappropriée. Quand on pense à Québec, par exemple, la clinique SABSA, qui est une clinique infirmière qui dessert une clientèle très vulnérable des gens, notamment qui ont des problèmes d'infections transmissibles sexuellement, des gens itinérants, des gens qui vivent avec le VIH. Mais écoutez, cette clinique-là dessert une grande proportion de la population. Et encore une fois, nous, les infirmières, on travaille toujours en collaboration interprofessionnelle. Quand elle a besoin, elle transfère la clientèle à un médecin. Mais dans la plupart des cas, ce transfert-là n'est pas nécessaire. On peut penser aux urgences. Par exemple, Charny est un bel exemple où est-ce qu'il y a un duo infirmière-médecin qui travaille ensemble pour s'assurer que les gens soient vus beaucoup plus rapidement. Donc, l'infirmière et le médecin ont chacune une salle d'examen, se partagent de l'information et ça assure une fluidité beaucoup plus grande. Chacun fait ce pourquoi il a été formé, et c'est la population qui en bénéficie. Alors, quand on dit ça n'a plus de sens là, qu'en 2016, on soit pris à attendre, on interpelle le gouvernement, on dit il faut changer les choses, mais on est des femmes puis des hommes d'action, on dit non seulement il faut changer les choses, mais on les connaît, les solutions. Elles existent à des endroits spécifiques. Il faut aujourd'hui capter ces innovations-là et les diffuser largement à travers le Québec pour que chacun des Québécois puisse accéder à des soins dans un temps opportun.
Puis les infirmiers et infirmières, c'est pas un petit nombre, ce que je lisais dans votre communiqué, là. Peut-être informer les gens.
14 000 infirmiers et infirmières au Québec. Alors, c'est toute qu'une force de frappe. On peut avoir un impact important pour améliorer cet accès-là aux soins, en autant que les infirmières puissent avoir l'opportunité de jouer ces rôles-là pour lesquels elles ont été bien préparées et qui font partie là, de ce que normalement une infirmière peut faire.
Puis dans votre nombre de 74 000, ça inclut autant les gens qui ont un DEC ou un BAC, là?
C'est tout le monde. C'est 74 000 infirmières, toutes formations confondues. Et parmi ces 74 000 infirmières-là, il y a aussi 380 infirmières praticiennes spécialisées, donc des infirmières qui peuvent aller encore un petit peu plus loin. Notre objectif, c'est d'augmenter ce nombre de 380 à 2000 au cours des 10 prochaines années. Et encore une fois, on attend des annonces du gouvernement parce que les infirmières praticiennes, et c'est le cas, par exemple, à la clinique, joue un rôle vraiment très important pour améliorer l'accès aux soins.
Ce que je trouve intéressant quand vous dites praticienne spécialisée, quel genre de spécialité pour l'avenir?
Je pense que la spécialité de l'avenir, c'est vraiment la première ligne. Quand je vous disais, la première ligne, là, c'est quand on va en cabinet, quand on est à domicile, c'est des soins de proximité. Parce que les maladies d'aujourd'hui, c'est des maladies chroniques. Donc ça se traite dans la communauté. Même les épisodes de soins, quand on est hospitalisé, maintenant, là, nos séjours sont courts.
Oui.
Alors tout se fait avant et après l'hospitalisation. La spécialité de l'avenir, c'est définitivement la première ligne. Mais en ce moment, on a aussi d'autres spécialistes qui travaillent au niveau de la néphrologie. On a des spécialistes en cardiologie, en néonatologie. Alors, il y a des infirmières qui travaillent à travers tout le continuum de soins, que ce soit à l'hôpital ou en première ligne. Mais notre vision des soins infirmiers de l'avenir, c'est vraiment davantage dans la communauté.
Et est-ce que si d'un matin, vous deviez vous asseoir devant le gouvernement, qu'allez-vous citer dans votre énumérer dans votre liste
dans la priorité. Liste des choses qu'on doit faire, il faut définitivement ajouter des nouvelles portes d'entrée à notre système de santé. Et les infirmières font partie de la solution parce qu'on ne peut pas continuer à faire ce qu'on fait depuis des années et espérer des résultats différents. Il faut vraiment qu'on augmente les portes d'entrée, que chacun joue le rôle pour lequel il a été formé. Et ça fait en sorte, ça, si les infirmières s'occupent des situations le plus courantes, le médecin va pouvoir voir les gens qui sont malades qui, présentement, attendent vraiment de très longues périodes de temps avant d'être vus par un médecin. Alors, chacun va pouvoir jouer son rôle en complémentarité, en collaboration, pour le bénéfice de toute la population du Québec.
Mais écoutez, je rappelle aux auditeurs que c'est la campagne nationale pour une plus grande autonomie infirmière et c'est dans les médias depuis le 17 octobre dernier et c'est jusqu'au 13 novembre. Merci beaucoup, Mme Tremblay, Lucie Tremblay, présidente de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Merci énormément.
Merci, Daniel. Au
revoir. Au plaisir. Et maintenant, je continue avec les informations, justement, les communiqués. Donc, les personnes à mobilité réduite, c'est une clientèle qui est appelée à croître. Et justement, on en parlait. Il ne faut pas jouer à l'autruche avec les données qu'on a sur le vieillissement de la population et sur les personnes avec une déficience. Les commerçants ont tout avantage à rendre leur commerce le plus accessible possible, soutient Marcelina Yugureanu, qui est directrice générale de la Chambre de commerce et l'industrie Royal Roussillon. Alors, selon elle, les personnes à mobilité réduite seront plus nombreuses dans le futur. Et Mme Yuguriyanu estime qu'il y a matière à réflexion et que c'est dans ses priorités de début de mandat à la tête de la Chambre de commerce d'industrie Royal Roussillon. La directrice aimerait pouvoir mettre en place un guide de recommandations à l'usage des commerçants pour les aider à rendre accessible leur commerce. Le sujet l'interpelle personnellement puisqu'elle a vécu des difficultés à fréquenter certains endroits en tant que maman avec une poussette. Des actions mises en place. Néanmoins, certains commerçants s'efforcent déjà à répondre à ce type de clientèle. Aux pharmacies Jean Coutu de Delson et à la Prairie, des stationnements pour personnes handicapées, il y a des trottoirs abaissés, des portes assez larges et automatiques, des salles de bain adaptées ainsi que des allées dégagées sont au nombre d'éléments permettant l'accès aux personnes à mobilité réduite. Ça fait partie du service à la clientèle. Nous sommes conscients que c'est un type de clientèle que nous avons. Il faut répondre à leurs besoins, indique Stéphane Guérin, copropriétaire de ces deux pharmacies avec sa conjointe. Le regroupement de plusieurs services pour les enfants de 0 à 5 ans, c'est en Abitibi-Témiscamingue. Les différents services en déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme et déficience physique pour les enfants de 0 à 5 ans seront maintenant regroupés dans la région. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue en a fait l'annonce aujourd'hui. L'objectif est d'offrir tous les services au même endroit dans les 5 MRC de la région. Avant le regroupement des C3S, les services étaient offerts dans différents établissements. Ces services seront localisés à Amos, Lassard, Val-d'Or, Rouyn-Noranda et Ville-Marie. L'objectif est que l'enfant obtienne de l'aide plus rapidement et aussi d'harmoniser le service dans chacune des villes de la région. Le parent n'aura pas à aller frapper à une autre porte. Il va déjà être dans la direction. Si son enfant a des retards plus importants que ce que l'on soupçonnait, il va être dans la direction qui va continuer son offre de service. Il n'aura pas besoin de demander à son intervenante de faire une référence vers une autre direction ou même avant, c'était vers un autre établissement, explique Sylvette Gilbert, directrice des programmes déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme et déficience physique. Autisme, toujours nouvelle ressource en autisme aux îles de la Madeleine maintenant. Alors, Autisme de l'Est du Québec vient d'embaucher une technicienne en éducation spécialisée aux îles de la Madeleine. En avril dernier, l'organisme avait interrompu son service en raison de difficultés financières. L'organisme souhaitait par ailleurs renouveler sa formule puisque son nombre de membres a chuté de 45 à 8 en seulement quelques années. Selon le directeur de l'organisme, Philippe de Carufel, cette nouvelle ressource va entre autres, s'occuper de faire du réseautage, d'organiser des cafés-rencontres où les parents et les proches pourront échanger et créer des liens. Elle sera ensuite chargée de renouveler les effectifs en contactant de nouvelles personnes. Elle tentera aussi de joindre les membres qui ont quitté le groupe pour savoir ce qui les a incités à prendre leur distance. Philippe de Carufel a toutefois des pistes d'explication. Il observe que la situation a changé depuis 20 ans. Nous intervenons de la même façon et les défis restent similaires, mais nous avons une meilleure compréhension de la maladie. L'intégration dans les CPE et les milieux scolaires est plus avancée. Philippe de Carufel, directeur d'autisme de l'Est du Québec, ajoute que l'accès à Internet a aidé les familles en leur donnant plus d'outils pour comprendre. Les centres de réadaptation en déficience intellectuelle ont beaucoup développé leurs services. Par ailleurs, la situation est bien différente en Gaspésie où le nombre de membres a explosé. En Gaspésie, pour terminer, et au Québec comme partout dans le monde, on constate une augmentation de 20 % du nombre d'enfants atteints d'autisme avec des budgets inchangés depuis des années, indique Philippe de Carufel. Ah, là, il y a un beau projet d'animation en éducation populaire sur des brèves biographies des nôtres et j'ai quelqu'un pour en parler avec moi ce midi. Martin Morin, agent d'information et de promotion du Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec et aussi coordonnateur du projet Déficience visuelle et résilience, brève biographie des nôtres. Hey, j'ai réussi à tout dire ça, M. Morin.
Oui.
Alors, parlez-nous de ce projet. Vous avez publié depuis plusieurs années des biographies de personnes ayant une déficience visuelle sur votre site Internet. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les tenants, les aboutissants de ce projet, justement?
Oui, c'est un excellent beau projet. C'est grâce au soutien financier de la Fondation Hector Spiat. Nous avons réalisé le projet Déficience visuelle et résilience, brève biographie
oui.
des
nôtres.
Ce projet consiste à produire et à diffuser une cinquantaine de biographies sur notre site web. Donc, les personnes, vos auditeurs, pourront aller lire ces biographies sur notre site web au www.rac.qc.ca.
Oui.
Donc, biographies-là portaient évidemment sur des personnes ayant une déficience visuelle.
Mmh.
Et aussi, les biographies devaient être significatives pour les personnes ayant une déficience visuelle
oui.
et devaient être aussi inspirants pour les jeunes et les moins jeunes.
Moi, quand vous me dites le bref biographie des nôtres, là, ça dure combien de temps, ces biographies? Ils sont de quelle longueur?
C'est des courtes, vraiment courtes biographies.
Oui.
Je suis à peu près, sur Internet, on ne peut pas nécessairement comptabiliser les pages, mais généralement, c'est à peu près une dizaine de pages. Des courtes, vraiment courtes biographies. Il y a certaines biographies comportent des extraits vidéo et d'autres des extraits audio et des photos.
Mais comment c'est justement, ça m'amène à vous poser, là, les gens, quand ils ouvrent et qu'ils regardent votre site et qu'ils voient ces biographies-là, moi, je me pose la question, comment vous les avez réalisées? Ça a dû être du travail, ça.
Oui, c'est beaucoup de travail. Nous avons engagé un auteur biographe qui est M. Gérald Cousineau, un excellent écrivain. Et dans un premier temps, ce qu'il faisait, c'est qu'il rencontrait ou il parlait, il faisait des entrevues avec les diverses personnes. Et par la suite, si la personne acceptait d'être une personne biographiée, M. Cousineau faisait l'entrevue et par la suite, il rédigeait la biographie.
Oui.
Et par la suite, suite à l'entente écrite, M. Cousineau envoyait la biographie à la personne biographiée, puis elle pouvait lui dire, mettons, si la biographie représentait vraiment son histoire vécue. Là.
Mm.
Et par la suite, suite à l'approbation de ces personnes-là, ben, on fait mettre en ligne la biographie telle que présentée, là, telle qu'acceptée.
Là, on parle d'un projet d'animation en éducation populaire. Est-ce que vous allez faire une tournée avec les biographies? Est-ce que c'est quoi ce projet d'animation en éducation populaire? Qu'est-ce que c'est?
Bien, afin d'amorcer une réflexion collective sur la situation vécue par les personnes handicapées visuelles, nous proposons de réaliser une trousse d'animation.
Ah.
Et afin de valider cette trousse ou l'efficacité de cette trousse, nous organisons dans la région de Montréal diverses activités d'animation.
Mm-hmm.
Et cette trousse-là s'adressera aux divers intervenants et aux associations membres et au public. Elle sera disponible, évidemment, sur notre site web au rac.qc.ca.
Mm-hmm.
Donc, puis lors de ces activités d'animation-là, ce que nous proposons, c'est une trousse clé en main. Donc, on arrive, on s'occupe de l'animation. Et lors de cette animation-là, comme on disait, nous, on veut orienter cette animation-là dans une perspective d'éducation populaire.
Mm-hmm.
Donc, ce que ça veut dire, finalement, c'est que nous, en tenant compte de des histoires et des expériences vécues par les participants, nous souhaitons leur prendre conscience. Nous souhaitons leur faire prendre conscience individuellement et collectivement de leur réalité vécue et en tenant compte aussi des diverses biographies qu'on nous leur présenterons lors de cette activité d'animation-là.
Est-ce que les gens peuvent participer? Comment qu'on peut participer, justement, pour pouvoir diffuser ces brèves biographies?
Comment on peut diffuser?
Comment participer? Des bénévoles?
Comment participer à cette animation-là? Mm-hmm. Bien, les gens peuvent communiquer avec moi. au 514-849-2018.
Oui.
Évidemment, comme je le précisais, les activités auront lieu dans la grande région de Montréal,
oui.
donc Montréal, Laval, Longueuil.
Oui.
Donc, ça peut être divers organismes. Là, les gens organismes ils peuvent nous appeler, m'appeler, puis il n'y aura aucun problème. On va prendre en note les dates de disponibilité de chaque organisme et par la suite, nous, on les rappellera.
Bien, écoutez, moi, je vais vous faire travailler un petit peu encore avant de vous quitter. Vous allez me répéter votre numéro de téléphone pour vous joindre, M. Martin Morin.
Oui, c'est le 514.
Oui.
849-2018.
8. Puis, rementionnez-moi l'adresse de votre site.
Site, c'est le www.raaq.qc.ca. Puis, sur notre page d'accueil, nous avons un lien qui s'appelle déficience visuelle et résilience, bref, biographie des nôtres. On a juste à cliquer là-dessus et vous allez avoir des super de belles biographies à lire, vraiment tous intéressantes l'une que l'autre.
Et je n'en doute pas une minute d'ailleurs. Je suis sûre que c'est très intéressant, surtout qu'il y a beaucoup de travail en arrière. Ça doit être assez... J'en doute pas une minute. Alors, écoutez, ces projets d'animation en éducation populaire sur des brèves biographies des nôtres, c'est... J'ai eu le plaisir, M. Morin, de vous accueillir. Et M. Morin est agent d'information et de promotion du regroupement des aveugles et amblyopes du Québec et aussi coordonnateur du projet déficience visuelle et résilience. Retenez, brève biographie des nôtres et allez visiter le site Le RAAQ. Merci beaucoup, M. Morin.
Est-ce que vous me permettez de préciser une dernière chose?
Ah ben, écoutez, ça va me faire grandement plaisir de vous écouter.
Désolé.
Non.
Vous dire que sur notre site, bon, comme je vous disais, il y a une cinquantaine de biographies,
oui.
mais de diverses personnes aussi, des jeunes, des moins jeunes. Il y a des personnes qui travaillent actuellement et des personnes qui sont retraitées
oui.
et qui ont vécu des biographies de gens exceptionnels. Ça, c'est vraiment là. Moi, ça me touche beaucoup d'avoir participé à ce projet-là.
Bien, moi, je trouve que c'est un beau, beau projet, puis je souhaite qu'il y ait beaucoup de gens. Bien, je suis sûre, tiens, on va donner le goût à aux gens. Allez voir le www.raaq.qc.ca et allez lire ces brèves biographies des nôtres. Merci beaucoup, M. Morin, et au plaisir.
Bonne journée.
À vous aussi. Au revoir.
Au revoir.
Alors, j'ai le temps pour faire une coupe de petites rafales dans le camp des paractualités. Alors, c'est avec plaisir que nous vous informons que le documentaire Mira, une histoire de cœur, est disponible sur la web télé de Canal D jusqu'au 22 novembre prochain. On connaît tous la Fondation Mira et l'œuvre colossale de cette organisation qui forme des chiens guides pour venir en aide au quotidien aux personnes atteintes de troubles de la vue et autres maux. Mais on connaît peut-être moins le fondateur de ce désormais indispensable service. Éric Saint-Pierre, un amoureux des chiens qui a eu l'idée de Mira en 1981 pour épauler les gens dans le besoin. Avec le documentaire Mira, une histoire de cœur, on s'intéresse aux accomplissements d'Éric Saint-Pierre. Le film d'un peu plus d'une heure est réalisé par Pierre Brochu. Alors, depuis sa création, Mira a fourni plus de 3000 chiens qui ont été distribués à des êtres touchés par des déficiences visuelles ou motrices et à des enfants aux prises avec un trouble du spectre de l'autisme. Et chacun de ces toutous représente un investissement de 30 000 $. Donc, Mira ne reçoit aucune subvention gouvernementale, s'autofinance au moyen de dons du grand public et de revenus provenant d'activités de financement. Et c'est sur cette dernière information que je vous quitte dans le cadre de l'émission Les Paractualités en ce jeudi 3 novembre. Daniel Rioux au microphone.